9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Pascal Clark.
C'est un documentaire un peu barré que vous pourrez bientôt voir sur Arte TV et même barré dans le cosmos d'ailleurs. Parallèlement à la conquête spatiale, s'est développé une sorte de fantasme de nombreux musiciens d'envoyer leur musique en l'air, de composer la bande-son du cosmos. Valentine Jelin a fait la bande-son de la bande-son. Écoutez.
On the moon, there's no sound that can be heard.
Ça s'appelle Cosmic Trip, la musique à la conquête de l'espace. Et c'est vous qui l'avez écrit, ce documentaire. Christophe Comte, bonjour.
Bonjour Pascal.
Alors là.
Alors là.
Vous êtes un grand spécialiste musical, journaliste, critique. Vous avez longtemps sévi au Zin Rock. Vous écrivez des livres, vous pigez dans l'IB, vous faites des docs. Enfin là, vous faites fort quand même avec ce sujet cosmique. Vous y pensiez depuis longtemps ?
Un petit peu, disons que c'est quelque chose, c'est un sujet qui me traverse depuis très très longtemps, depuis même l'enfance, parce que j'ai toujours été intéressé par ces musiciens qui avaient comme ça une espèce d'envie d'aller ailleurs, pour plein de raisons, qu'on explique je crois assez par étapes dans le film, mais en fait non, l'idée elle est venue vraiment de manière très très brutale, presque. Une fois je me suis retrouvé dans le bureau de Bruno Patino, le directeur à l'époque de l'éditorial d'Arte, et maintenant le président, et il m'a demandé si j'avais une idée, et je l'ai vraiment improvisé comme ça sur le moment.
Ah oui, parce qu'il vous en fallait une.
Oui, voilà, il m'en fallait une, alors elle m'avait un peu travaillé depuis quelques temps, mais je savais pas du tout où j'allais, et puis il m'a dit il me faut un projet dans un mois, donc c'était vraiment, du coup ça m'a boosté un peu, et puis j'ai fait des recherches, mais pas très longtemps, parce qu'en fait je me disais qu'il fallait partir à l'aventure, c'est une aventure, donc il fallait tirer un fil, et puis ensuite en rencontrant des gens, et notamment tous les gens qui témoignent dans le documentaire, je me suis rendu compte qu'il y avait des ramifications qui m'avaient même échappé, hein, puisque on remonte même jusqu'à Pythagore.
Ah bah oui, non, c'est étonnant.
Voilà, et donc ensuite, j'ai contacté, j'avais un producteur, Sébastien Follin, que vous connaissez sans doute.
Bah oui, Sébastien Follin, j'ai vu ça.
Ouais. Oui, voilà, et lui m'a dit pourquoi tu travailles pas avec Gaëtan Châtaignier, avec qui j'avais fait déjà deux documentaires, et avec Gaëtan tout de suite. Lui, il est un peu fantasque, un peu fou. Il m'a dit, oh, super, on va reconstituer une navette spatiale, ce qu'on a fait dans un studio d'enregistrement.
Donc ça, c'est à l'image. Hein,
c'est à l'image, voilà, ouais. Avec des comédiens. Il y a même Marc Caro, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, les comédiens.
Ah, oui.
Il fait un gourou un peu cosmique à un moment. Voilà, donc on s'est vraiment amusé, on a fait ce tournage. Et puis par ailleurs, on a essayé d'être à la fois sérieux et ludique, parce que c'est un sujet qui est à la fois... Par moment, on peut devenir presque un peu aride, un peu technique, parce qu'il y a
pointu,
des choses
disons.
Pointues,
ouais.
Voilà. Et en même temps, on voulait le rendre vraiment accessible à tout le monde, et puis donner une image, parce que ce sont beaucoup de musiciens très fantasques, il faut bien le dire, on va le voir dans les images, il y a des choses qui même aujourd'hui paraissent totalement barrées, mais en même temps, ça sous-tendait quand même plein de questions qui me semblaient assez importantes, et avec une résonance contemporaine très importante.
Alors c'est un peu 2020, l'Odyssée musicale de l'espace. On le disait, l'espace qui fascine les musiciens, et ça ne date pas d'hier. Pourquoi ? Alors, il y a Jean-Michel Jarre qui intervient dans ce documentaire, notamment, hein, et il donne un élément de réponse.
Dans l'espace, on n'entend rien. On n'entend que les sons de son propre corps. Donc, on entend son battement de cœur. C'est la première chose qu'on entend.
C'est une bonne première définition.
Bah déjà, c'était le point de départ, parce que nous, on est habitués toujours aux films de science-fiction où ça, les sabres laser, tout ça. Mais en fait, dans l'espace, il y a pas de son, il y a pas d'air. Donc le son, il y a du son, mais il peut pas se propager. Donc là, on s'est dit, oui, le vrai sujet, c'est ça. C'est puisqu'il n'y a pas de son dans l'espace, qu'est-ce que tous ces musiciens, à travers les âges, ont essayé de créer ? C'est une bande son imaginaire, en fait. Et donc, à partir de là, on pouvait imaginer nous-mêmes. Remonter ce fil, le tirer dans tous les sens et voir les différentes familles, les différentes époques et pourquoi elles ont à chaque fois eu cette obsession depuis... Pythagore, c'est un peu exagéré, mais tout cas, depuis le début du XXe siècle, ça c'est évident, depuis l'inventeur du thérémine, qui a fait des sons comme ça, qui ont été utilisés dans des films de science-fiction, on s'est dit, voilà, il y a quelque chose qui dure... Le thérémine, c'est 1920, donc ça faisait 1920-2020, c'était 100 ans, en fait, de son de l'espace.
Alors, il y a évidemment du mystique là-dedans. là-dedans, il y a de la métaphysique, mais il y a aussi du technologique. Enfin, c'est un peu le mélange de tout ça, non ?
Parce que je pense que l'espace, c'est un peu ça. C'est-à-dire que même pour les scientifiques, il y a une part de rêve, déjà, il y a une part de fantasme, il y a une part d'enfance. Chacun essaye de repense à des choses qui sont liées à l'espace. Et puis, il y a des points très, très marquants dans la conquête spatiale qui sont accompagnés à chaque fois de musique. C'est-à-dire que, évidemment, le premier homme sur la Lune, mais même avant, hein, avec Sputnik, il y avait un groupe qui s'appelait Sputniks. Ouais.
Et même Bill Haley, c'est Bill Haley and the Comets.
Bill Haley and the Comets. Et puis, au moment de 69, donc l'homme sur la Lune, il y a David Bowie quand même, il y a Space Oddity. Bah, donc, il y a toutes ces musiques-là. Et puis l'autre point, et que là on aborde de manière un peu grave avec Jean-Michel Jarre qui était aux premières loges, c'est Challenger, l'explosion de Challenger qui a un peu freiné, presque arrêté brutalement la conquête spatiale. Et donc là, on a deux pôles. Alors aujourd'hui, on repart avec évidemment la conquête de Mars, mais c'est ce qu'on dit un peu à la fin du film. Là maintenant, c'est quelque chose qui est réservé un peu aux milliardaires. Enfin, évidemment, il y a quelqu'un comme Thomas Pesquet qui fait encore rêver, mais c'est plus la même chose. Tout ce fantasme qu'il y avait par rapport à évidemment la conquête spatiale, il y a quelque chose d'un peu vintage aussi qu'on retrouve beaucoup dans le film.
Oui, et puis on voit passer quand même des personnages assez étonnants, voire complètement barrés. Je pense notamment à Sun Ra. À l'origine, c'est un musicien de jazz et puis bon, il est un peu frappé de révélation.
Il est frappé de révélation, mais lui, il y croit beaucoup. C'est-à-dire que lui, il se prend très au sérieux, même si quand on voit les images, ça paraît un peu kitsch aujourd'hui. Mais lui, il était investi d'une mission et qui a été la mission de beaucoup de musiciens noirs américains. Il y a comme ça une cosmogonie, comme on dit, des musiciens noirs américains, parce que eux avaient une théorie qui a été vraiment expliqué par Sun Ra et par d'autres, par George Clinton, c'est que les Noirs américains sur Terre, ou les Noirs en général, n'avaient pas leur place. C'est-à-dire que l'esclavage, tout ce qu'il y a eu aux États-Unis, la ségrégation, a fait que les Noirs américains, à un moment, dans la musique en premier, mais ensuite dans le cinéma, se sont émancipés à travers la conquête d'un espace imaginaire.
Et puis aujourd'hui, on dirait peut-être que dans l'espace, I can breathe.
Exactement.
Christophe Comte est avec nous ce matin dans Culture Média. On continue à parler de ces expériences assez cosmiques. Vous écoutez Europe 1, à tout de suite. Clark. L'attraction des musiciens pour le cosmos, Cosmic Trip, la musique à la conquête de l'espace, documentaire écrit par Christophe Comte. Il sera en ligne, le doc par Christophe, à partir du 2 août sur arte.tv avec une diffusion Arte la télé le 9 août à 0h45. Bon, forcément, oui. C'est un peu tard. Hein,
après, beaucoup de gens aujourd'hui regardent en replay. Oui. C'est en replay jusqu'en novembre, je crois.
Vous avez le temps. Enfin, voilà. N'en profitez pas non plus. Et puis, évidemment, il y a un groupe qui symbolise quasiment ce doc, c'est Pink Floyd. Cosmic Trip extrait.
Mais le temps sera encore long jusqu'au premier pas de l'homme sur la Lune. Et dans les années 60, ce sont de nouvelles drogues hallucinogènes qui anticipent ce désir d'une génération de décoller de la surface de la Terre. Un groupe en particulier, formé en 1965 par des étudiants de Cambridge, va explorer ces nouveaux territoires qui relient directement le cosmos intérieur aux mondes interstellaires. Son nom, Pink Floyd. Son premier lieu de décollage, le club UFO à Londres, l'OVNI. Tout un programme.
On a beaucoup lié le trip intérieur avec le cosmos, évidemment. Puisque quand on tripe, surtout avec le LSD, on a une compréhension des choses globales. Donc c'est un rapport direct avec le cosmos.
Bon, évidemment, il fallait bien un peu de drogue à un moment donné.
Toujours. Toujours un peu de drogue, mais surtout que là, le sujet, c'est vraiment... Enfin, ça n'a pas été le cas de tous les musiciens, mais enfin, certains d'entre eux ont plané quand même très haut en raison des drogues, ça c'est sûr, notamment dans les années 60 et début 70. Mmh. Et ça, bon, Pink Floyd, c'est même dramatique pour Syd Barrett, qui était leur leader, qui lui n'en est pas redescendu, et qui a été vraiment, lui, un visionnaire de cette... de cette musique-là, du psychédélisme, qui était, comme on le dit, un peu un voyage intérieur, mais qui était avec des thèmes quand même. Il y avait un morceau qui s'appelait Astronomie dominée. Enfin, c'était vraiment ça. À l'époque, je pense que tous les jeunes gens du Swinging London adoraient, parce que c'était à l'époque le fantasme encore d'aller dans l'espace, parce que ça vient en 69, mais là on est plus en 66-67. C'est encore un peu flou et un peu mystérieux.
Mmh. Alors, on se dit, ce sont des gens un peu farfelus, un peu à côté, mais quand on regarde votre doc, Christophe Comte, pas tant que ça, c'est très politique en fait. C'est sous-tendu politique.
Il y a le sous-tendu politique, évidemment, dont j'ai parlé tout à l'heure sur les Noirs américains, mais aussi un autre, et là, qui est un peu plus tabou, finalement, qui est celui des Allemands. Les Allemands, dans les années 70, avec Tangerine Dream, évidemment, Kraftwerk, même si c'était un peu différent, mais beaucoup de groupes, notamment à Berlin, se sont investis dans ces musiques qu'on appelait la Kosmische Musik à l'époque, la Cosmic Music en allemand. Et là, on se dit, est-ce que c'était une manière de faire table rase d'un passé qui leur pesait, parce que ce sont des jeunes musiciens qui étaient nés soit pendant la guerre, soit après la guerre. Quel était leur rapport sur Terre?
Oui, donc, et là, c'est plus rugueux, c'est plus noir.
C'est beaucoup plus noir, c'est parfois beaucoup plus difficile à écouter, même s'il y a des choses absolument merveilleuses, mais là, on entre dans une dimension qui est pour le coup, pour certains, en tout cas, très traumatique. Et on le sent, on le voit à leurs images, on le voit à la manière dont c'est... Parce que ça a beaucoup été filmé, documenté, mais les documents qu'on voit sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont dans des pièces comme ça, avec des synthétiseurs, et qui cherchent quelque chose qui est vraiment un échappatoire, ce qu'on explique quand même dans le film. Ça, c'était une dimension qui, moi, tout de suite, m'a interpellé, parce que ça me semblait être vraiment le cœur du sujet, à la fois, pour être franc, au début, je voulais faire deux volets. Hein. Je voulais faire un volet sur la musique noire américaine, qui, à mon avis, méritait...
Ça tenait, il y avait voilà. De quoi, il y avait suffisamment.
Il y a énormément de choses, parce qu'il y a plein de gens dont on ne parle pas, mais qui ont quand même travaillé sur ces thématiques-là. Et puis, il y avait ce dossier plus sur le rock cosmique, le psychédélisme et le rock allemand. Finalement, un seul, c'est pas mal, parce qu'on passe d'un à l'autre. Puis il y a des Français aussi, pas mal.
Ouais, et puis on passe aussi par, je le signale, par Détroit, Detroit aux États-Unis avec Jeff Mills. Il y a un moment donné, bon, en même temps c'est le thème de votre doc, mais tout devient cosmique, non? On a l'impression, oui. C'est-à-dire que vous disiez que vous avez tiré sur la ficelle, mais là vous êtes tombé sur une grosse pelote.
Un
gisement.
Oui, bah, d'une certaine manière, c'est ça aussi qui m'a donné envie à la base de faire ce documentaire, puisque moi j'écoute énormément de musique dans des genres très très différents, et je me suis rendu compte que c'était un des thèmes qui revenait dans absolument tous les genres, c'est-à-dire aussi bien dans des musiques très légères, du début des années 50, où les gens écoutaient, vous savez, avait des disques à l'apéro et tout de suite ça parlait d'espace. Et puis évidemment la techno, le rap aussi, Afrika Bambaataa, Planet Rock, tous ces musiciens qui ont été les pionniers du rap. Évidemment la musique psychédélique, la musique allemande, mais aussi des choses plus légères contemporaines, les R, Daft Punk, tout ce qu'on a appelé rétro-futurisme, parce que ce qu'on explique un petit peu dans le film, c'est un peu la troisième thématique, c'est que l'an 2000 était d'une certaine manière la frontière ultime de la conquête, de toutes les conquêtes, et puis arrivé en l'an 2000, on s'est rendu compte que tout ce dont on avait rêvé, les voitures qui volent, aller dans l'espace en taxi, tout ça, ça n'existait pas. Et là est arrivée une tendance qu'on a appelée le rétro-futurisme, où on a rembobiné finalement vers ces sortes de doudous, et c'est vrai que lorsqu'on écoute Air, Daft Punk, notamment tous ces groupes français, mais bien d'autres, Stereolab, des groupes anglais, américains, on se rend compte qu'en fait, ils se réfèrent beaucoup à l'âge d'or de la conquête spatiale et de la musique spatiale, que sont les années 50-60. Mmh. Et donc là, il y avait dans ce retour futuriste, retour, ce qu'on appelle le rétro-futurisme, voilà, une manière de boucler la boucle, de se dire... Bon,
alors là, évidemment, on attend le prochain volet quand on ira sur Mars. Mais c'est déjà écrit, hein, c'est David Bowie.
Exactement, Bowie, lui...
Tout est prêt, là.
Lui, il a vraiment balisé le terrain.
Est-ce que vous vous éclatez, Christophe Comte, à écrire des documentaires d'abord parce que c'est encore possible sur Arte?
C'est encore possible sur Arte, c'est merveilleux que ce soit possible qu'il y ait une chaîne comme ça et qu'elle soit française, mais franco-allemande en tout cas, mais c'est inespéré pour des gens qui essayent de faire des choses un peu plus sophistiquées que juste des documentaires sur des vedettes. Oui, c'est formidable de pouvoir faire ça. Moi, j'adore le faire parce que, d'une certaine manière, c'est un prolongement de ce que j'ai toujours fait à l'écrit, c'est-à-dire tirer des fils entre les genres et parfois des fils invisibles et les révéler. Et ça, c'est ces documentaires-là.
Et la richesse des archives, ça, c'est...
Voilà, la richesse, alors dans les deux sens du terme, ça coûte très cher. Ça, c'est un peu le problème quand on fait du documentaire avec beaucoup d'archives, c'est que ça coûte très cher. Mais bon, en même temps, voilà, ça fait partie, c'est des choses qui sont, pour beaucoup d'entre elles, assez mythiques, et c'est normal qu'elles coûtent cher.
Alors, bon, sinon, l'époque est très particulière, le moment, l'été, tout ça, c'est particulier pour les artistes, pas question de scène. Est-ce que vous côtoyez un peu des musiciens mal en point en ce moment, désespérés ?
Beaucoup d'entre eux, en tout cas, ont vécu le confinement, toute cette période, avec à la fois une envie de faire des choses, hein, on l'a vu, beaucoup d'entre eux ont pris des initiatives, mais je pense qu'ils ils sont très désespérés, en tout cas certains d'entre eux, pas tellement pour eux, mais pour les gens qui travaillent autour d'eux. C'est-à-dire que des musiciens qui sont assez connus, qui ont des revenus, qui continuent bon an mal an à faire des choses, eux-mêmes ne s'inquiètent pas trop pour eux. En revanche, tout cette infrastructure qui est autour de la culture, et pas seulement dans la musique, là, en revanche, elle souffre beaucoup. Et ça, c'est certain que... Moi, je sais que j'ai eu Keren Ann, Biolay, des gens comme ça... Ils ne pensent pas seulement à eux, ils pensent beaucoup aux gens qui travaillent pour eux, parce qu'à chaque fois, un artiste, c'est peut-être 20 à 30 personnes qui travaillent autour.
Seul, on ne fait rien. Merci beaucoup, Christophe Comte.
Merci à vous, Pascal.
On vous lit dans Libé, et votre documentaire Cosmic Trip sera sur Arte TV à partir du 2 août, donc on peut dire que c'est dans 2 jours. Bel été à vous.
Merci.
Et ça n'a l'air de rien.